Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Ce soir, dans le débat du jour, nous parlons du nucléaire iranien.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et voilà, un sujet hautement inflammable, alors que l'Iran ne cesse de se rapprocher de l'arme nucléaire. Et cela près de 7 ans après le retrait des États-Unis de l'accord international qui avait été conclu en 2015. Alors depuis plusieurs semaines, l'objectif d'un nouvel accord fait surface, puisque délégations américaines et iraniennes mènent des discussions. Il y a déjà deux rondes qui ont eu lieu, le prochain est prévu ce samedi, et il s'annonce déjà dans un contexte tendu, puisqu'hier, Washington a décidé de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Notre question ce soir, est-ce qu'il peut y avoir un accord sur ce nucléaire iranien? Quelles conditions pour un accord? Jusqu'où l'Iran sera-t-il prêt à lâcher du lest pour obtenir la fin des sanctions qui asphyxient son économie? Et à quel compromis les États-Unis de Donald Trump sont-ils prêts alors qu'ils répètent qu'ils veulent démanteler le programme nucléaire iranien? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir en ligne, avec moi David Rigoulet-Rose, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Notre deuxième invité est Clément Terme. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris, spécialiste du monde iranien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question. Clément Terme, où en est l'Iran en vue de se doter de l'arme atomique? Que sait-on de ce dont Téhéran dispose aujourd'hui?
Alors oui, l'Iran est un état du seuil nucléaire. Hein. C'est une question qui se pose depuis les années 70. Donc les premières prédictions d'une militarisation du programme nucléaire iranien date de décembre 1975 par la CIA, le service de renseignement des États-Unis. Donc c'est un débat qui précède l'existence même de la République islamique depuis 1979. Mais ce qui a changé depuis la Révolution, c'est la nature de la politique étrangère de la République islamique. Avant la Révolution, le programme nucléaire était perçu de manière extrêmement positive en Occident, en particulier en France, qui voyait le nucléaire iranien comme une opportunité commerciale. Par contre, en raison de la Révolution, et notamment de la prise d'otages des diplomates américains, mais pas seulement, des otages européens ont aussi été en prison en Iran, plusieurs dizaines de ces dernières années, la République islamique a désigné les États européens comme des adversaires géopolitiques. Et depuis lors, depuis les années 80, que ce programme a repris dans le contexte de la guerre Iran-Irak, se pose la question des intentions nucléaires de l'Iran, civiles ou militaires, dans un contexte géopolitique bouleversé, d'hostilité des relations irano-occidentales. C'est pourquoi il y a ce débat sur...
Est-ce que c'est un programme militaire ou civil? Mais ma question, c'était surtout, justement, parce que l'Iran enrichit son uranium, on le sait, mais à quelle hauteur?
Donc, l'Iran enrichit, oui, jusqu'à 60%. C'est vrai que ces décisions ont été prises après le retrait américain 60%. De 2018. Il n'y a pas de justification civile pour un tel niveau d'enrichissement, mais il faut distinguer la capacité, et c'est là où il y a un débat, c'est pour ça que j'ai dit un état du seuil, mais peut-être faut-il expliquer, vous avez raison, c'est-à-dire c'est un état qui, s'il le décide, c'est-à-dire si le guide suprême de la révolution islamique, qui est le principal décisionnaire en Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, le décide, à ce moment-là, il faudrait entre 1 et 3 ans pour la république islamique pour se doter d'armes nucléaires qu'elle pourrait utiliser. Donc, ce n'est pas une question qui est imminente. Il faut distinguer la capacité, la fabrication effective des armes que l'on peut utiliser avec la capacité d'avoir une quantité suffisante. Non, une capacité d'avoir une quantité suffisante d'uranium pour, en théorie, fabriquer des armes. Et là, le délai est beaucoup plus court. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette confusion, je pense, dans les médias, entre avoir des armes, des systèmes d'armes nucléaires et avoir la capacité d'en produire. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a toujours des négociations et que, pour l'instant, l'outil privilégié pour gérer ces ambitions nucléaires iraniennes est la diplomatie.
Ouais. En tout cas, Clément Terme, ce qu'on peut dire, c'est que l'Iran se rapproche toujours plus de l'arme nucléaire à mesure que les années passent depuis que les États-Unis ont quitté l'accord qui avait été conclu en 2015 sous Obama, ça c'était les États-Unis de Trump déjà en 2018 lors de son premier mandat, qui quitte l'accord international. Et depuis, finalement, l'Iran ne cesse d'enrichir son uranium.
Oui, on peut dire que la politique étrangère américaine est devenue, depuis la fin des années 2010, un facteur de prolifération nucléaire. Alors qu'avant, la politique étrangère américaine était conçue justement pour lutter contre la perspective de la prolifération nucléaire. Mmh. Mais c'est encore une fois, la question se pose, c'est pas une question technique, c'est une question politique, c'est une question de décision politique à Téhéran et d'orientation plus générale de la politique étrangère de Téhéran depuis 1979.
David Rigolero, ça aussi c'est une question politique. Pourquoi Donald Trump, qui a quitté l'accord de 2015, cherche à conclure un nouvel accord avec l'Iran ?
Bah, quand il a décidé de sortir en mai 2018 de l'accord, il a considéré que l'accord de 2015 était pas assez contraignant au regard de ce qu'on appelle les sunset clauses, c'est-à-dire des contraintes qui à échéance devenaient caduques, notamment l'achat d'armement, de matériel destiné aux balistiques, etc., et sur le nucléaire. Donc l'objectif de l'accord de 2015, c'était dans un temps limité de contraindre effectivement l'Iran pour éviter de développer, s'il y avait une intention, un domaine militaire, hein, on va dire une nucléarisation militaire. Donc c'est pour ça qu'on avait fixé un seuil à 3,67%, qui est le seuil civil, effectivement.
Mmh. Et aujourd'hui, ils sont à 60, donc très très loin.
Ils sont à 60, ce qui, de toute façon, objectivement parlant, n'est pas un seuil, n'est pas un enrichissement à caractère civil. Même si l'Iran s'en défend, en disant que l'Iran n'a pas d'intention de militariser son programme, c'est une déclaration d'intention, mais en réalité, les faits prouve qu'il y a un problème majeur. Puisque
ce que vous voulez dire, c'est que finalement, si ça doit être dans le cadre d'un programme, pour que ce soit clair, civil, pas besoin d'aller à un taux aussi haut que 60%, c'est ça ?
Non, normalement, éventuellement à 20%, parce que ça, 20%, ça permet effectivement d'utiliser un enrichissement destiné à notamment médical, pour des traitements sur le cancer ou d'autres types de maladies. Mais à 60%, on est clairement au-delà. Et en plus, le passage de 60 à 90%, qui est l'enrichissement militaire, peut se faire de manière très courte. C'est pour ça que, effectivement, Clément Terme évoquait la question du puissance du seuil. Aujourd'hui, objectivement, l'Iran est devenu une puissance du seuil. C'est-à-dire que techniquement, rien n'empêche l'Iran de prendre une décision qui, pour le coup, est politique. Elle n'a pas été prise pour l'instant, semble-t-il. Mais c'est plus un obstacle technique de passer au nucléaire militaire. C'est uniquement le résultat éventuel d'une décision politique qui serait celle du guide suprême.
En tout cas, on peut affirmer objectivement. Pardon, mais on peut affirmer objectivement que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire.
Bah, en tout cas, on peut avoir de sérieux doutes compte tenu du niveau d'enrichissement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été relevé à de multiples reprises par l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, et notamment par la voix de Raphaël Grossi, qui vient de dire d'ailleurs récemment dans un article du Monde que effectivement l'Iran était disposé aujourd'hui du matériau susceptible de concevoir un engin. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement c'est le cas pour l'instant. Mais en tout cas, avec environ 275 kilos à 60%, effectivement, potentiellement, l'Iran est en situation technique de pouvoir concevoir une demi-douzaine d'engins si la décision était prise. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas ou ne semble pas être le cas selon les dires même de Raphaël Grossi. Mais on voit bien que l'enjeu est considérable, effectivement, en termes de prolifération et par rapport au TNP, qui est le traité de non-prolifération qui a été signé par l'Iran.
David Rigouleros, comment vous observez les négociations qui se déroulent actuellement entre les États-Unis et l'Iran, qui ont débuté il y a quelques semaines? Il y a déjà eu deux rondes, c'est ce que j'expliquais. Il y en a un troisième qui est prévu ce samedi. Ce sont des discussions indirectes. Les délégations se parlent dans deux salles différentes à chaque fois. Comment est-ce que vous observez cela ?
Oui, alors pour ce qui est direct et indirect, c'est une question de forme, hein, parce qu'il faut ménager les susceptibilités des parties en présence, mais en réalité, elles sont approfondies, effectivement. Il faut signaler que le troisième round a été décalé. Hein.
Oui, normalement, il devait avoir lieu aujourd'hui.
Mercredi. Ouais, c'est ça. Donc, on sent qu'on approche de tensions qui avaient été différées jusqu'à présent, puisque les choses s'étaient plutôt favorablement présentées il y a 15 jours et encore samedi dernier. Mais il y a un certain nombre de déclarations, notamment de Marco Rubio, qui vient de dire que de toute façon, l'Iran ne pourrait pas enrichir en Iran même. Donc c'est là on voit qu'il y a une crispation, puisqu'initialement on avait pensé que finalement les choses se passaient de manière assez fluide et qu'il y avait une attitude constructive des deux, mais manifestement on va rentrer dans le dur, et c'est là que les choses vont être beaucoup plus compliquées.
Et pourquoi les États-Unis ont décidé hier de nouvelles sanctions imposées à l'Iran à quelques jours d'un troisième round de discussion? C'est pas d'augure à apaiser et d'aller vers un accord?
Oui, c'est ce que souligne d'ailleurs Téhéran, non sans raison, puisqu'effectivement, il y a une logique de négociation, donc une logique diplomatique qui semble prévaloir. Mais manifestement, du côté de l'administration américaine, il s'agit de montrer qu'on maintient une pression maximale. C'est sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc, c'est un jeu de sanctions supplémentaires qui met une pression accrue sur le processus de négociation. Et on voit bien que c'est parce que, de manière sous-jacente, les enjeux sont considérables.
Clément Terme, pourquoi ces discussions États-Unis-Iran sous la médiation d'Oman? En 2015, les grandes puissances étaient réunies. Donc, il y avait évidemment États-Unis et Iran, mais il y avait la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les puissances nucléaires.
Alors oui, mais la négociation principale était déjà passée par le canal omanais. Donc, à l'époque, la différence, c'était que c'était des négociations secrètes irano-américaines. Et finalement, l'accord sur le nucléaire a été très largement décidé dans le cadre de ces négociations secrètes. D'ailleurs, ça avait provoqué à l'époque la colère des Européens quand ils avaient appris que les États-Unis négociaient secrètement, directement avec la République islamique d'Iran sans les informer, et que les paramètres finalement de l'accord sur le nucléaire ont été déjà définis dans le cadre d'une négociation directe par l'intermédiaire omanais. La différence aujourd'hui, c'est ce format indirect, puisque le guide suprême Ali Khamenei avait interdit les négociations directes avec les États-Unis depuis le retrait américain, donc il y a 7 ans, depuis 2018. Et le changement de position de l'Iran, en fait, s'explique par la peur du régime de l'effondrement en raison du retour à la pression maximale, donc le risque pour l'Iran de ne plus être en capacité de vendre son pétrole, et aussi le risque que des frappes militaires sur le programme nucléaire iranien, les installations nucléaires iraniennes, provoquent un soulèvement populaire et un mécontentement accru de la population. Donc, et ensuite, il y a quand même ce format bilatéral ou trilatéral via Oman, mais il y a aussi un autre format qui est avec la Russie et la Chine, puisque la Russie pourrait être la garante finalement d'un accord conclu avec les États-Unis en direct, et également la Chine, c'est-à-dire la Chine pour les aspects économiques, les bénéfices que pourra en tirer l'Iran, la levée des sanctions partielles, et la Russie pour la garantie sécuritaire. Mais le problème, c'est quel type d'accord les États-Unis. Est-ce que les déclarations de Marco Rubio, qui étaient évoquées précédemment, sont un point de départ dans la négociation, ou est-ce qu'elles sont la position finale des États-Unis? Si la position finale des États-Unis, c'est un démantèlement complet du programme nucléaire iranien, il n'y aura probablement pas d'accord. Par contre, si c'est un accord de vérification des intentions nucléaires de la République islamique, il y aura probablement un accord. Mais il faut préciser, pour le débat qu'on a eu sur la militarisation possible du programme nucléaire iranien, la Russie joue un rôle déterminant, parce que ça serait la seule grande puissance dotée d'armes nucléaires qui pourrait être, si elle connaît une escalade dans ses relations avec les États-Unis, enclin à aider la République islamique dans cette perspective. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, et ça, c'est un facteur important. La Russie et la Chine s'opposent à une militarisation du programme nucléaire iranien. Elles sont des États dotés au titre du traité de non-prolifération nucléaire. Et donc ça, c'est une convergence entre les grandes puissances. Et donc Donald Trump, même s'il a marginalisé les Européens, il cherche à s'appuyer en tout cas sur la Russie et la Chine. Et on est pour l'instant donc dans un format bilatéral à Oman, mais avec une participation indirecte de la Russie et la Chine.
Et comment est-ce qu'on peut, on peut vérifier à quelle fin l'Iran enrichit son uranium?
En fait, la question, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Donc, il ne faut pas poser la question à partir du taux d'enrichissement. Il faut se poser la question différemment. Il faut se demander...
Alors, à quelle fin est-ce qu'on peut démontrer ou imposer à l'Iran un programme nucléaire civil et le contrôler?
En fait, En fait, la question, ce n'est pas les facteurs extérieurs, les pressions extérieures. La question, c'est est-ce que la décision de militariser le programme servirait les intérêts de la République islamique d'Iran? Et est-ce que cette décision pourrait menacer la survie du régime, du système politique de la République islamique? Jacques Chirac avait dit dans une interview célèbre à la une du New York Times en 2006 que si Téhéran cherchait à se doter d'armes nucléaires, Téhéran serait vitrifié. Et donc, le sens commun dirait plutôt que la militarisation potentielle du programme nucléaire iranien entraînerait la chute du régime.
Ça met, donc, finalement, l'Iran se mettrait une balle dans le pied, entre guillemets.
Oui, à court terme, tant que le processus de négociation est en cours. Qu'est-ce qui pourrait changer ce calcul? Parce qu'il y a un débat interne en République islamique sur la possibilité ou non de développer un programme nucléaire militaire. Ce débat est basé sur l'idée que s'il y a des frappes militaires israélo-américaines contre les installations nucléaires civiles iraniennes, à ce moment-là, la République islamique pourrait prendre la décision de militariser rapidement son programme. Mais il y a la conscience, je pense, parce qu'on vous a dit que c'était une décision politique, dans la prise de décision politique pour l'instant, que le coût qui est associé à la possible militarisation du programme nucléaire est plus important que les bénéfices que la République islamique pourrait en tirer, sachant qu'elle mettrait en danger sa survie.
Peut-il y avoir un accord sur le nucléaire iranien? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors que délégations américaines et iraniennes doivent se rencontrer pour un troisième round de discussion ce samedi. On en parle avec Clément Terme, que l'on entendait, qui est chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier, à Sciences Po Paris, spécialiste du monde iranien, et David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. David Rigoulet-Rose, Clément Terme a commencé à évoquer un peu les enjeux d'un possible accord. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui empêcher, c'était une question que je posais, finalement Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, s'assurer que Téhéran, derrière son programme officiellement civil, eh ben, constitue un programme nucléaire, ou est-ce que finalement aujourd'hui l'enjeu est d'abord d'encadrer la possible bombe que pourrait fabriquer l'Iran?
Non, l'enjeu, c'est une question considérable. Raphaël Grossi, hier encore, devant le Council of Foreign Policy, a dit que l'AIEA manquait de visibilité. Il a même dit en septembre 2024 que, dans une formule un peu elliptique, le navire a pris la mer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de visibilité sur le programme et que les négociations actuelles, justement, sont, je cite, un moment de responsabilité énorme, énorme, énorme pour tout le monde. Parce que ça dépasse le seul cadre purement iranien. Il y a tout la question du traité de non-prolifération qui est derrière, sur la sécurité régionale. Donc l'enjeu, il est effectivement énorme. Et l'Iran en est conscient d'ailleurs, ce qui explique qu'il y a, comme vous évoquez, la question de la décision politique, si elle devait être prise, ne sera pas à la légère parce qu'elle engagera... des enjeux absolument considérables. Alors, simplement, pour revenir sur le format bilatéral, je dirais qu'il n'y a pas que les Américains et puis les autres puissances dotées. Les Européens ne sont pas forcément uniquement mis de côté. La preuve en est, c'est que
Clément Terme y a répondu finalement en disant qu'il y avait beaucoup d'autres puissances qui participaient
à cette discussion. Dans le cas des Européens, c'est important parce que dans le traité de 2015, qui avait été signé en juillet 2015, il y avait un mécanisme qui avait été introduit qui s'appelle le snapback. Le snapback, c'est le cliquet en français. C'est les Français d'ailleurs qui l'avaient mis dans le traité au dernier moment. C'est la possibilité de rétablir automatiquement les sanctions internationales. Et chose intéressante, les Américains peuvent pas le faire puisqu'ils s'en sont retirés. C'est pas les Russes et les Chinois qui sont susceptibles de le faire justement. Donc il reste deux signataires, membres du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne et la France, qui pourraient éventuellement, sur un rapport de l'AIEA, demander un passage devant le Conseil. Et il se trouve que c'est un système un peu particulier de veto inversé. Et donc on ne peut pas s'opposer. Il peut pas y avoir un veto, c'est-à-dire à partir du moment où c'est présenté, Il suffit qu'il y ait un pays qui constate une infraction caractérisée au traité, qui normalement est en vigueur jusqu'à octobre 2025, et à ce moment-là, le snapback peut être utilisé. Ça suppose qu'en plus des sanctions américaines, il pourrait y avoir les sanctions internationales. Ouais.
Ce qui pèse lourd pour l'Iran, évidemment. Ça, c'est très lourd pour l'Iran.
Parce que,
c'est aussi une question, je me permets d'accélérer parce que le temps tourne, je vous poserai évidemment la question de la marge de manœuvre d'un Iran qui est aujourd'hui affaibli, mais pour poser la question frontalement, comment croire à un accord quand aujourd'hui les États-Unis veulent le démantèlement du programme nucléaire de l'Iran, alors que l'Iran veut continuer à pouvoir avoir un programme civil?
Oui, mais la ligne rouge de Téhéran, ça sera de refuser un démantèlement complet. C'est le problème.
Ouais,
et c'est là
sûr.
Où on va buter sur. Ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas accepter la formule dite libyenne, c'est-à-dire le démantèlement de l'enrichissement tel qu'il a été conçu depuis le début. D'abord parce que il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, et puis c'est un enjeu de sécurité nationale pour l'Iran.
Mais est-ce que ce démantèlement, c'est une ligne rouge des États-Unis?
Ben justement, il y a eu des déclarations contradictoires des États-Unis qui parlaient d'un enrichissement éventuellement civil, et puis maintenant, certaines déclarations font état d'un démantèlement de la filière, ce qui n'est pas la même chose, sans parler du stock de 60% que de toute façon, il faudrait exporter à l'extérieur et que sur lequel l'Iran ne veut pas non plus céder. Donc, on voit qu'on arrive au moment de vérité, en réalité. Ça va être déterminant, notamment, les choses établies avant l'été, vraisemblablement, parce qu'il y a cette échéance d'octobre 2025 qui rend caduque justement le traité dans sa forme établie en 2015.
Et ce qui veut dire plus de sanctions pour l'Iran, qui est déjà frappé par les sanctions encore nouvelles qui ont été annoncées hier par Washington. Il y a la destruction de sa défense aérienne par Israël. Il y a évidemment les alliés de l'Iran qui ont été fortement affaiblis, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Clément Terme, jusqu'à quel point l'Iran est capable de lâcher du lest sur ses négociations sur son nucléaire justement retrouver une économie qui est aujourd'hui asphyxiée, un pays qui est très mal en point pour toutes les raisons que je viens d'évoquer?
Oui, tout à fait. La marge de manœuvre de la République islamique d'Iran est faible. Le fait même que le guide suprême ait accepté de reprendre des négociations publiquement sous la pression maximale des États-Unis, alors que l'administration Trump accélère les sanctions et prépare aussi la possibilité d'une option militaire, est en soi un signe de la vulnérabilité, ou en tout cas de la conscience d'une possible vulnérabilité par les dirigeants politiques de la République islamique. Ensuite, une autre possibilité que l'on n'a pas évoquée, c'est la possibilité de négociations sans fin. Ouais. Parce que certes, le président Trump a des objectifs techniques qu'on a débattu sur le démantèlement versus un accord de vérification des intentions nucléaires de la République islamique, mais il y a aussi peut-être une priorité qui est donnée à éviter l'escalade militaire. Et le simple fait que les négociations continuent permet peut-être au président Trump permet au président Trump de gérer les contradictions internes à son administration, et notamment ceux qui seraient partisans de frappes militaires sur les installations nucléaires iraniennes. De l'autre côté, la République islamique souhaite éviter la perspective d'un rétablissement des sanctions internationales qu'on a évoquées précédemment, et puisque les Européens pourraient activer ce mécanisme au mois de juin, et donc peut-être que la République islamique a aussi intérêt à faire durer ce processus de négociation pour essayer de convaincre l'administration Trump d'empêcher les Européens. Donc ça fait partie probablement du calcul de Téhéran. Mais le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis soutenaient le retour des sanctions de l'ONU activées par les Européens si les négociations n'avancent pas. Mais faute d'alternatives crédibles, c'est-à-dire au processus de négociation, quelle autre possibilité? C'est plus de sanctions et ou des opérations clandestines. Sinon, c'est des frappes militaires. Donc les outils dont disposent les grandes puissances, ou en tout cas les États-Unis, pour gérer les ambitions nucléaires iraniennes, sont limités et ont tous des avantages et des inconvénients. Donc il faudra voir si l'administration américaine donne la priorité au nucléaire iranien ou à la stabilité dans la région, ou voilà, est-ce qu'elle est capable de faire des compromis aussi par rapport à ses propres lignes rouges pour éviter la perspective d'une mise aussi en danger des soldats américains stationnés dans la région.
Et effectivement, des négociations qui se prolongent peuvent aussi donner le sentiment pour l'Iran d'être encore impliqué dans cette quête d'un accord, de tenir un peu plus à distance de nouvelles sanctions. David Rigoleros, vous en pensez quoi ? Vous voyez des discussions se poursuivre ainsi pour aussi, évidemment, éviter, parce que ça a été évoqué par Donald Trump, la menace d'une intervention militaire américaine ?
Oui, mais ça va être compliqué parce que là, on arrive, ça va être les Américains eux-mêmes vont être au pied du mur parce qu'en réalité, s'il devait y avoir l'activation du snapback, le fameux mécanisme dont je parlais, ouais. Il faudrait que ça soit annoncé 90 jours avant l'échéance justement d'octobre 2025.
Parce que donc ça ne peut pas durer des mois.
Ben non, parce qu'après 2025, il ne peut plus avoir ce mécanisme. Donc, si ce mécanisme doit être activé, c'est au moins donc c'est au niveau de l'été. Et donc, on voit bien que l'urgence du processus qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire entre les contradictions, entre le souhait de la diplomatie et puis l'option potentiellement militaire. Il faut rappeler quand même que ça avait pris des années de négocier le fameux JCPOA, l'accord de 2015. Et là, le problème, c'est que l'urgence fait que ça doit être fait en quelques mois, alors que c'est une question éminemment complexe, à la fois techniquement et politiquement. Donc, y a un énorme point d'interrogation sur la suite du processus.
Et vous diriez, David Rigoleros, que l'Iran, on approche de la fin de notre émission, mais que l'Iran a d'autres choix finalement que de négocier, vu sa situation, on l'a évoqué, et ce que disait Clément Terme, finalement, un programme nucléaire militaire qui pourrait se retourner contre l'Iran.
Ah oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une extrême prudence de la part de Téhéran. Et en même temps, Téhéran a été obligé de négocier. Le guide a donné son aval parce qu'il y a une logique de survie pour le régime aujourd'hui. Et ça passe par effectivement une transaction sur le nucléaire. Le problème, c'est que les lignes rouges des uns et des autres sont tellement incompatibles à un certain niveau, s'il n'y a pas des concessions de part et d'autre, qu'on ne voit pas très bien comment ça pourra finaliser, quel est un processus qui a été présenté favorablement dans un premier temps. Mais dès qu'on rentre dans les questions essentielles, on voit bien qu'il y a des blocages qui sont très très forts. Et là, le fait que ça ait été différé pour le samedi, justement, c'est pas forcément un hasard, ouais. Surtout avec les nouvelles déclarations de Marco Rubio, qui sont beaucoup plus exigeantes que ne laissaient penser celles de Steven Witkoff.
Les enjeux sont très importants, et pourtant rien ne garantit qu'on parviendra à un accord. C'est ainsi que je conclurai ce débat autour du nucléaire iranien. Merci beaucoup à vous deux. David Rigoleros, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Clément Terme, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris, spécialiste du monde iranien. Merci à Arnold Assewa qui était à la préparation de ce débat du jour et à Quentin Moulin qui était à sa réalisation.
RFI.
Allez, 19h, bientôt 59 minutes ici à Paris. Dans une minute, Christophe Paget, le grand journal du soir et le dossier qui sera consacré à la RDC alors qu'actuellement se déroulent des négociations entre la présidence congolaise et la FCM23 à Doha, au Qatar. Sylvie Béret, bonsoir.
Oui, ben justement, nous en parlerons. Bonsoir Romain, bonsoir
voilà,
à tous.
J'allais vous lancer un petit peu sur le programme d'Afrique Soir dans 30
minutes. Absolument, ben on reviendra justement sur ces discussions directes entre les autorités de Kinshasa et le mouvement M23-AFC. Nous parlerons également des réactions en Côte d'Ivoire après la radiation par la justice de la liste électorale du candidat du PDCI, Tidjane Thiam, écarté de facto de la présidentielle d'octobre prochain. Nous parlerons également de la visite d'État à Madagascar du président Emmanuel Macron qui annonce avec son homologue Ange Radzouel toute une série d'accords et le renforcement de la coopération économique entre la France et la Grande Île. Voilà, en gros, pour le sommaire.
Oh bah c'est un beau programme, on vous retrouve dans 30 minutes, on sera là.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On a Christophe Paget qui va arriver pour le grand journal du soir. Ne bougez pas sur RFI, on revient dans 30 secondes.